gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir, c'est la causerie au 102.2 et sur radiocanu.org. Et oui, parce que j'essaie de relancer les esprits après Dan Moon Knight qui vous aura tiré vers le fond. Mais c'est tellement bon parfois d'être tiré vers le fond. Et donc ce soir, autour de la table, il y a Jean-Yves.
Bonsoir Fab.
À la technique, l'indétrônable Clara.
Je laisse ma place. Bonsoir.
Bonsoir. Et donc, pour nous joindre, lacauseriecanu@gmail.com, c'est le seul moyen où on répond vraiment. Voilà. Ensuite, on a des blogs. Alors, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. blogs.radiocanu.org/lacauserie, où tu vas sur radiocanu.org, tu cherches la causerie, tu trouveras le blog. Et voilà. Et sinon, on est aussi sur un espace socio-commercial bleu. Et on est aussi sur pas mal de plateformes de podcasts. Tu tapes la causerie canu et normalement, tu nous trouves. Voilà. Et tout ça, c'est vachement bien.
Oui, tu non mais voilà, ok, non, tu peux faire ton émission, hein, j'ai envie de dire,
oui.
Ne fais pas attention à nous.
Vous êtes là, pardon.
Et ben, je crois que tu as tout rappelé, effectivement, et puis ben, tu vas garder le crachoir, parce que c'est toi qui vas commencer en nous parlant d'une guerre.
Ouais, alors bon, je sais, on est en soirée d'élection, tout ça, vous n'êtes pas forcément derrière votre poste, mais quand vous écouterez le podcast, ça vous changera un petit peu les idées, et vous direz, tiens, on va parler d'autre chose que des élections. Oui, par contre, on est à la causerie, donc on va pas forcément vous parler de trucs très sympas. Donc j'avais envie de parler ce soir de la guerre oubliée du Tigré en Éthiopie, c'est-à-dire de cette guerre qui perdure depuis un petit moment et en fait que peu de gens ou assez peu de monde ont suivi ou a suivi en termes de possibilités, de facilités d'accès à l'information. Donc j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus. Alors comme d'habitude, quand ça se passe sur le continent africain, on a généralement peu d'infos, parce que on peut s'en rendre compte, malheureusement, on a un mauvais réflexe, on va dire, en Europe, d'être toujours tourné soit sur l'Europe, soit sur les États-Unis, soit sur la Russie. Et si on prend une carte, on regarde pas vers le bas. Bon, après, là, c'est une sphère, hein, la Terre. Hein, donc voilà. Donc je sais pas. Donc si vous vous souvenez, mais l'actuel président éthiopien Abiy Ahmed a reçu en 2019 le prix Nobel de la paix pour avoir activement aidé à la fin du conflit en Éthiopie, surtout entre l'Éthiopie et l'Érythrée. J'y reviendrai. Donc c'était à l'époque porteur d'un espoir important, hein, de voir enfin la région et en particulier le pays vivre en paix après des dizaines d'années de guerre, de conflits interethniques et de conflits déportés entre grandes puissances. Il ne faudrait pas oublier qu'à une époque, les guerres dans la région là-bas étaient des guerres finalement entre l'URSS et les États-Unis, qui n'osaient pas trop se le dire, ou entre l'Europe et l'URSS, ou entre l'Europe et les États-Unis, parce que tu vois, ça arrive.
Oui, mais parce que, il faut rappeler de mémoire, aux alentours de l'Éthiopie, il y a un truc qui s'appelle Djibouti.
Oui, tout à fait.
Et c'est une grosse base
militaire française.
Militaire française.
Donc, élu, il a été élu assez largement, hein, ce Premier ministre. Beaucoup mettaient sur son nom l'idée d'une prospérité et d'une paix durable. C'est d'ailleurs dans son programme et c'est d'ailleurs ce qu'il promettait. Autant le dire, en fait, c'est clairement pas le cas. Depuis maintenant novembre 2020, il y a une guerre fratricide et sanglante, hein, qui ensanglante de nouveau le pays et entraîne dans son sillage des milliers de morts et des millions de déplacés. Voilà, donc c'est la guerre autour du Tigré. Le Tigré, je vous rappelle, c'est une région située au nord de l'Éthiopie. Cette région, elle a toujours connu des tensions, et pour cause, en fait, elle est une des régions centrales entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Hein, on va rappeler qu'une guerre a opposé les deux nations entre 1998 et 2000. C'est pas si vieux que ça, hein, donc voilà. C'est une région qui a été rattachée à l'Éthiopie, certes, mais qui a toujours eu une forte indépendance, qui avait même un gouvernement propre à la région, qui n'appliquait pas toujours ou qui n'applique pas toujours les mêmes lois que le reste du pays, pas forcément de façon extrêmement large, mais voilà. La minorité tigréenne, hein, elle représente 6% de l'actuelle Éthiopie, hein, des habitants de l'Éthiopie. Elle est donc en fait largement minoritaire face aux Oromo, qui représentent 35% de la population, et face aux Amara, qui eux sont plus de 31%. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à eux deux, les Oromo et les Amara représentent 66% de la population en Éthiopie. Et donc, en fait, ces deux ethnies se partagent en fait concrètement le pouvoir depuis des années. Et donc, on voit bien qu'il y a une légère distorsion qui se fait pour les minorités dans la région. Alors, il faut pas oublier que l'Éthiopie est constituée de plus de 15 ethnies différentes réparties sur le territoire et souvent de façon régionale. C'est-à-dire que les Tigréens sont au Tigré. Enfin, voilà. Donc, c'est un pays fédéral, hein, officiellement, qui devrait avoir à sa tête une représentation la plus proche de ce qu'est l'Éthiopie. Voilà. Alors aussi bien ethniquement que politiquement. Sauf qu'en Éthiopie, depuis des années, se mélangent les notions religieuses, ethniques et politiques, et que quand c'est comme ça, c'est toujours un peu le bint. Voilà.
Oui, mais ça me fait un peu penser, alors je suis peut-être à côté, hein, mais un peu au Liban, où finalement on tenait tellement à avoir une représentation religieuse et ethnico-religieuse au pouvoir qu'en fait... Ouais, on peut l'avoir, mais finalement, est-ce que ça représente les aspirations des populations ? En fait, moi, je suis toujours
Je sais pas si le parallèle peut se faire. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que en Éthiopie, ce qui a beaucoup compté ces dernières années, c'est que quand vous étiez membre des deux ethnies majoritaires, vous aviez plus facilement accès à l'administration, au poste, ou même d'ailleurs à la vie politique en haut de l'échelle de l'État. Et ça, ça se voit. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas juste un problème politique, c'est aussi un problème qui relève d'un entre-soi qui ne devrait pas exister, mais qui est un entre-soi ethnique, en fait. Mmh. Voilà. Donc, en fait, la minorité tigréenne, elle vit ultra majoritairement dans le nord de l'Éthiopie, hein, évidemment, dans le territoire qui est dénommé le Tigré, tout simplement. Hein, voilà. Donc, c'est donc le Front de Libération du Peuple Tigréen, le FLPT, qui dirige la région depuis quelques années. Hein. Cette formation politique est à l'origine d'inspiration marxiste-léniniste, mais elle a parfois été aussi proche d'une forme de maoïsme durant son histoire. Le parti a été fondé en 1970, hein, puisque dans les infos, on a l'impression que ce front, il vient d'émerger. En fait, il est très ancien, il date des années 70. En fait, pendant des années, il va d'ailleurs être copieusement arrosé par l'URSS, trop contente de trouver... en lui, un contrepoids à la présence européenne et française dans la région, en particulier. Voilà. Tu parlais de Djibouti, voilà, c'est exactement ça. Lors du retour de la paix en Éthiopie, hein, il avait été décidé que le pouvoir central fédéral devait être le mieux possible divisé entre les différentes composantes de l'Éthiopie moderne. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement c'est pas comme au Liban, c'est pour ça que j'ai du mal à faire le parallèle que tu as fait, et c'est pas mais c'est pas comme au Liban, on n'a pas subdécoupé en disant 31%, 33%, voilà. Non, en fait c'était l'idée que le pouvoir devait représenter l'Éthiopie moderne, donc il y avait quand même la notion de dire on va mettre par exemple la proportionnelle au plus possible, les gouvernements devront être issus de la proportionnelle, un petit peu presque à l'allemande en fait dans l'idée. Je sais pas ce que je veux dire, c'est-à-dire que le Bundestag il est élu et ensuite on essaie de diriger avec un maximum de gens dans une coalition. C'était un peu plus dans cet esprit-là. Voilà, après c'est un peu compliqué. Sauf qu'assez rapidement, il a été donc constaté que le pouvoir était plutôt entre les mains des Oromo, en fait, hein, et notamment via le Premier ministre Abiy Ahmed et ses alliés Amara, qui avaient fini en fait par marginaliser toutes les autres ethnies. Ils les ont carrément foutus dehors, même de l'administration. Donc ça, là, on pouvait voir une vraie volonté de ne pas prendre en compte les autres ethnies. Alors ce qui est... Comme je vous le ethnicité, c'est régional. Donc en fait, quand vous prenez pas en compte les autres ethnies, c'est qu'en fait finalement, vous ne prenez pas en compte une région. En fait, c'est un petit peu comme si en France, on disait bon ben on n'a pas de Bretons à l'Assemblée nationale, ouais, parce qu'on dit voilà. Donc c'est face à cela que le FLPT donc décide de lancer des attaques pour libérer le Tigré et en proclamer l'indépendance. Parce que alors je vais rappeler quand même que le Tigré, c'est pas une région pauvre, contrairement à ce qu'on croit. C'est une région qui est pas riche non plus. Hein, c'est pas, mais c'est une région où en fait on peut vivre assez dignement, comme on dit. Et surtout, c'est une région où se concentrent deux choses, les sous-sols et l'eau. Donc il y a des choses dans le sous-sol et il y a de l'eau. Donc forcément, bah, c'est une région qui est souvent disputée, hein, comme souvent dans des coins comme ça.
Oui, mais en fait, c'est ça que je veux soulever. En fait. C'est-à-dire que quand on ethnicise, on religieuse, religieuse, je ne sais même pas si ça se dit, mais on religieusise, ça n'a pas de sens.
On confessionnalise,
merci. En fait, des conflits, on en oublie vraiment trop, très tout le temps, l'aspect économique, répartition des richesses, etc. Et que finalement, on va jouer sur le particularisme ou la différence, alors que bon, déjà, on est quand même tous différents. Mais
là, la guerre du Tigré, c'est plus une guerre finalement économique,
bien sûr, mais
et de maintien de l'économie qu'une guerre ethnique, même si elle s'appuie sur une ethnicité en fait préexistante.
Voilà.
Donc c'est le 4 novembre 2020 qu'est lancée une attaque sur les locaux des forces nationales éthiopiennes dans la ville de Mekele. Alors Mekele, c'est la capitale du Tigré, hein, voilà, et à Dancha, pardon. Donc il faut être conscient que suite à la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie, alors je rappelle pour ceux qui sont nuls en géo, c'était mon cas, hein, c'est mon cas, l'Érythrée c'est au nord de l'Éthiopie. Mmh. Donc voilà, donc suite à la guerre, la région, elle totalise plus de la moitié de l'ensemble du personnel des forces armées et des divisions mécanisées du pays dans le commandement du Nord, parce que c'était là qu'il se trouvait. Mais le FLPT, il peut compter sur une importante force paramilitaire, donc des gens qui se sont armés et qui se sont entraînés à côté de l'armée, on va dire, et une milice quand même bien entraînée, dont les effectifs sont quand même estimés à 250 000 hommes. Donc c'est pas pas rien, hein, c'est quand même une grosse milice. Et la décision prise semble bénéficier, c'est le fait d'idée d'aller vers l'indépendance, d'un soutien significatif des 6 millions de Tigréens. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment pas quelque chose qui a été lancé par un tout petit groupe.
Ouais, groupuscule
c'est en fait des gens qui estiment que dans l'Éthiopie actuelle, ils ne sont plus du tout écoutés et qu'en fait ils disent bah prenons notre indépendance, parce que pas tout le Tigré c'est assez grand, hein,
assez
riche, donc il peut prendre son indépendance. Donc c'est donc un conflit d'ampleur, hein, qui est lancé assez rapidement. Donc cette attaque, elle est repoussée en partie, mais on estime qu'elle a fait des milliers de morts, hein, quand même. Alors on n'a toujours pas de chiffres officiels, aussi bien parce que l'armée officielle éthiopienne refuse de donner des chiffres, mais aussi parce que le FLPT refuse d'en donner. Donc en fait ça devient un peu, c'est compliqué de savoir, mais on sait il y a malheureusement des charniers qui ont été retrouvés, il y a des choses, donc on sait qu'il y a eu des milliers de morts. Donc des accusations tombent du côté du pouvoir central qui accuse le FLPT d'avoir habillé une partie de ses soldats en tenue érythréenne pour laisser entendre que l'Érythrée s'en prenait aux Tigréens pour relancer un peu la guerre et affaiblir finalement l'Éthiopie. En fait, l'idée c'était de dire l'Érythrée d'un côté s'attaquerait à l'Éthiopie, ce qui fait que l'Éthiopie serait allée attaquer l'Érythrée et ce qui aurait laissé le Tigré tranquille. Vous voyez, c'est un peu bon. Honnêtement, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites. Beaucoup de gens disent que c'est un petit peu de la fabulation, voilà. Et de l'autre, en fait, des milices proches du pouvoir central auraient porté les couleurs du FLPT pour commettre des exactions. Et là, de la même façon, en fait, bah, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux, voilà. Mais sachez que c'est ce qui se dit. Alors après, il y a des gens qui disent qu'effectivement, peut-être qu'une minorité de soldats des deux côtés ont pratiqué ces deux méthodes-là, mais c'était pas, selon les observateurs extérieurs et internationaux, c'était pas du tout une habitude grande échelle. Donc le 5 novembre 2020, l'état d'urgence est décrété sur tout le territoire par le gouvernement. Donc on voit, hein, ça allait vite. Hein, 4 novembre attaque, 5 novembre on décrète l'état d'urgence dans toute l'Éthiopie. 2020. Donc le même jour, hein, le président du Front de Libération du Peuple du Tigré, hein, donc il s'appelle Debretsion, je vais écorcher son nom, je suis désolé, hein, c'est Debretsion Gebremichael, ouais, c'est un peu dur à dire pour moi, pardon. Il a confirmé que les forces tigréennes contrôlaient le quartier général du commandement nord de l'armée éthiopienne. Donc c'est une énorme prise en fait, hein, et il avait saisi la plupart des armes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, bah, les milices qui existaient, elles sont maintenant armées par tout ce qu'il y avait dans ce commandement. Donc Debretsion a également déclaré que le commandement du nord lui-même avait fait défection et rejoint la rébellion et l'armée de l'air éthiopienne bombardaient des zones proches de Mekele, la capitale du Tigré. Donc en fait, l'idée qui ressort de ça, c'est qu'en fait, cette guerre est très asymétrique, encore une fois, parce que bon, voilà. Mais en fait, ben, elle est perdue d'un côté et gagnée de l'autre, parce qu'il y a eu un revers donc du pouvoir central, mais en même temps pas partout. C'est-à-dire que à Mekele, oui, qui est la capitale, et ce qui est logique, hein, si le coup d'État était soutenu par la population, bah, c'est dit. Alors je dis coup d'État parce que c'est l'appellation officielle, hein, voilà, c'est la lutte pour l'indépendance, hein, vous le prenez dans l'autre sens. Mais du coup, bah, le pouvoir central, il va décider que via le Conseil de la Fédération, hein, c'est la Chambre haute éthiopienne, donc c'est celle qui peut prendre des décisions en urgence. Ils se réunissent en session extraordinaire et le 7 novembre, ils approuvent dans une résolution d'établir un gouvernement de transition au Tigré. Donc autrement dit, ils chassent du pouvoir les Tigréens qui est du Front de Libération, du FLPT, en disant on va venir installer des gens venus de la capitale qui vont gérer votre région parce que franchement là c'est très mal géré. Autrement dit, cette décision, elle signifie que le Parlement éthiopien donc suspend les autorités provinciales du Tigré, mais encore, il faut que l'ordre soit ramené par les militaires, parce que ça s'accompagne de ça. C'est-à-dire, c'est l'idée de dire, du coup, on va aller faire ça légitime en fait une attaque militaire contre le Tigré pour récupérer le pouvoir qui serait injustement pris. Je rappelle qu'historiquement, et d'ailleurs, c'est ce que faisaient remarquer plusieurs observateurs de l'ONU, le FLPT, il est légalement à la tête du Tigré, c'est-à-dire qu'il a été élu.
Il n'a pas volé.
Qu'après, on puisse dire oui, il y a eu une attaque militaire et tout. Certes, mais au départ, il n'y a pas de pouvoir qui a été volé militairement. Or là, on joue sur une ambiguïté parce que la loi qui est mise en place, en réalité, c'est une loi qui s'applique en cas de coup d'État. Au cas de putsch. Sauf que c'est pas un putsch parce que c'est les gens qui étaient déjà au pouvoir qui, vous voyez. Donc c'est un peu paradoxal, mais voilà. Depuis donc cette guerre, elle perdure, hein, entre les bombardements d'un camp et de l'autre, des missiles envoyés sur les capitales des deux pays. On peut dire que c'est une guerre longue, hein, très clairement, et larvée, qui dure et on voit aussi bien l'armée éthiopienne que le FLPT reprendre des villes et des régions. Par exemple, à une période, les milices du FLPT étaient à 300 km de la capitale, donc ils avaient énormément avancé. Puis ils ont eu des revers, ils sont repartis, et ainsi de suite. Donc c'est assez tendu et c'est une guerre qui fait vraiment énormément de morts et qu'on oublie d'avoir dans nos esprits. Donc ce qui est le plus inquiétant, hein, c'est que ce conflit a pris depuis le début une tournure de guerre ethnique. Comme je disais, c'est donc en fait ce qui a servi un petit peu à légitimer tout ça, c'est ça. Donc il y a eu des exécutions sommaires de centaines de personnes qui ont eu lieu, hein, que ce soit du fait du FLPT, en représailles en fait d'attaques qui avaient été menées. On parle par exemple du massacre de 600 personnes qui étaient à Mara, ou de la part des forces légales ou de leurs alliés ou extérieurs. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve un peu des noms qu'on connaît. A priori, il y aurait eu des gens de la milice Wagner, par exemple, qui seraient venus sur le terrain. On parle aussi de paramilitaires de américains, de je sais plus quelle. Alors elle a changé de nom, mais d'une société paramilitaire américaine. Donc on voit que voilà, c'est aussi des mercenaires qui sont payés. Et comme d'habitude, quand vous avez des mercenaires, ce sont généralement les pires des militaires. Et donc ils ont tendance à faire des trucs horribles. Et donc il y a eu des massacres de masse contre les Tigréens. Donc le conflit dure, hein, et c'est là que le gouvernement éthiopien, sous l'égide d'Abiy Ahmed, il décide en fait d'une opération spéciale d'envergure pour la reprise du Tigré, officiellement donc pour pacifier la région, on va être très clair. Une opération spéciale, hein, comme un certain Poutine peut en annoncer une sur l'Ukraine, parce que c'est la même logique, c'est-à-dire qu'ils annoncent qu'ils vont enlever les forces extrémistes du Tigré. Sauf qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'on voit bien que cette annonce, elle est un petit peu en décalage par rapport au réel. Et les mêmes causes, hein, ont souvent malheureusement les mêmes effets. Et c'est pour ça que deux ONG, Amnesty International et Human Rights Watch, ont mené des enquêtes et ils accusent aujourd'hui des milices alliées au gouvernement de crimes de guerre et d'une volonté d'ethnicide dans la région. Voilà. Donc ils n'ont pas l'habitude, aussi bien les deux ONG, de brandir ethnicide aussi, assez facilement. Donc quand ils le font, généralement on peut se dire là il y a vraiment un problème. Donc ils disent que l'ouest du Tigré aujourd'hui a clairement subi quelque chose qui ressemble à un ethnicide. Voilà. Donc les deux, donc Amnesty International et Human Rights Watch, ils l'affirment, alors je vais les citer, c'est dans leur rapport, les forces régionales Amara et les forces alliées du gouvernement éthiopien dans la zone ouest du Tigré se sont rendues coupables de crimes de guerre, d'homicides, de tortures, de viols, d'expulsions, de transferts forcés et de disparitions forcées de milliers de personnes. Voilà. Et en fait, c'est la définition légale internationale de l'ethnicide. Donc c'est pour ça qu'ils disent, ben, ça porte un nom, hein, voilà. Donc les deux ONG, elles parlent aussi hein, de crimes de guerre, certes, mais aussi de crimes contre l'humanité, parce qu'elles révèlent des bombardements aveugles de villes et des exécutions extrajudiciaires, forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir du Soudan voisin, et dans d'autres parties du Tigré. Donc c'est ça qu'il y a énormément de déplacements. Mais aussi, en fait, une campagne coordonnée de persécution fondée sur l'origine ethnique. Et là, en fait, c'est ce que dit le rapport. À partir du moment où on vous désigne ethniquement pour vous éliminer, bah, c'est un crime contre l'humanité.
C'est un nom, c'est ça.
Et en fait, ils disent, bah, le problème, c'est qu'on... ils ont été très critiqués au départ par certaines parties, notamment par le pouvoir éthiopien. Forcément. Mais en fait, ils disent, mais à un moment donné, il y a des définitions légales. Quand on retrouve, alors je ne vous ai pas tout sorti, mais on retrouvait des tracts, en fait, des papiers écrits pour les militaires, avec indiqué qu'il fallait désinguer les Tigréens, hein, quoi. Donc, parce qu'ils étaient Tigréens, hein, voilà. Donc, voilà. Mais aussi, en fait, il y a eu des viols hein, commis comme outil de persécution, en particulier sur des jeunes filles et des femmes. Ça a été fait de façon extrêmement massive, notamment dans l'ouest du Tigré. Donc oui, ça a été un crime contre l'humanité. Voilà. Donc, et même si les deux ONG, par contre, elles ne nient pas l'implication du FLPT dans des massacres. Hein. Et elles rappellent d'ailleurs dans leur rapport qu'au début du conflit, des milliers de Tigréens et des habitants de la région ont aussi commis des crimes de guerre contre des Amara. Donc parce que les troupes fédérales étaient majoritairement Amara, vivant sur place, et des travailleurs migrants lors d'un massacre survenu dans la ville de Maïkadra. Voilà, donc ils le disent, c'est pas caché, et elle n'en soulève pas moins qu'un gouvernement reconnu internationalement commet des exactions horribles sans que cela n'émeuve grand monde. Parce que c'est ça un petit peu qui aujourd'hui est un peu problématique hein, quand même. Donc le rapport des deux ONG souligne aussi que des milliers de Tigréens ont été emprisonnés et agressés dans des établissements surpeuplés. Voilà. Certains détenus sont morts des suites de tortures, faute de soins médicaux ou à cause du manque d'eau ou de nourriture, tout simplement. Donc on a fait des camps de la mort. Voilà, parce que c'est ce que ça s'appelle comme ça, en fait. Hein. Vous mettez des gens, vous les enfermez, vous ne leur donnez ni eau ni nourriture, puis vous attendez qu'ils meurent. D'autres ont été tués par des gardiens dans des prisons gérées par les forces Amara et la milice Fano. Alors la milice Fano, c'est le mouvement nationaliste qui est en Éthiopie. Donc je passe sur la partie exécution sommaire et tout, et sur le fait que cette guerre a rapproché les ennemis d'hier, hein, parce que des forces érythréennes étant rentrées sur le territoire du Tigré pour prêter main forte aux forces éthiopiennes pour se débarrasser du FLPT. Voilà. Et pour soutenir hein, les forces dites officielles d'Éthiopie. Hein, voilà. Oui, alors c'est l'absurdité de la guerre et des intérêts croisés. Je vous le rappelle, le Tigré n'est pas une région pauvre. Tout le monde veut un peu sa part du gâteau. Hein, voilà, tout simplement. C'est horrible. Et c'est les populations qui morflent.
C'est une constante dans les guerres. Hein,
ouais, tout à fait.
Il y a toujours, c'est toujours de l'intérêt et c'est toujours économique, en fait.
Donc si ces derniers jours, le conflit semble baisser d'intensité, beaucoup d'observateurs sont pensés que ce n'est qu'une respiration avant une reprise, tout simplement. Peut-être sous une autre forme, hein, parce que le conflit peut changer de forme, après tout. En effet, la coalition autour du Premier ministre Abiy Ahmed semble se fissurer, parce que Abiy Ahmed, en fait, il dirige pas tout seul, c'est une vraie coalition. Et aujourd'hui, il y a des vraies fissures qui apparaissent politiquement. Et certains observateurs pensent même que les alliés d'hier risque de devenir les ennemis de demain. Voilà, donc c'est ça. Relançant l'Éthiopie dans une guerre civile longue, axée sur le contrôle des richesses, le tout masqué par des différences ethniques. Voilà. J'ai essayé un soir, en fait, de mettre un petit peu en lumière, une lumière sur ce conflit, hein, trop souvent oublié ou relégué au second plan. Pourtant, c'est un des conflits, l'ONU le classe comme tel, un des conflits majeurs de cette période. Donc quand on place conflit majeur, c'est pas qu'il y a des guerres pas graves, hein, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait on dépasse un seuil qui est fixé, qui est purement arbitraire à l'ONU. C'est quand en fait un conflit fait plus de 2000 morts. Voilà, à partir du moment où on a plus de 2000 morts, on estime que c'est un conflit majeur. Ça veut pas dire que le conflit mineur il est pas pris en sérieux, ça veut dire qu'en fait on est dans une escalade qui ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. C'est ça que ça veut dire majeur. Donc une guerre qui peut donc reprendre rapidement et s'étendre, voire exploser totalement une région, hein, parce que c'est ce qui risque d'arriver, au prix de morts et de millions de viols et de millions de réfugiés, évidemment. Alors, bah, c'est à nous, en fait, de nous tenir informés et de soutenir ceux qui veulent la paix. C'est ça qui est le plus important. Et décidément, hein, il est souvent mal remis quand même ce prix Nobel de la paix. Donc, voilà.
Oui, rappelons-le qu'il y a aussi un certain Obama qui l'a reçu.
Oui, avant de lancer une guerre.
On ne compare pas les deux personnages.
Non, mais avant de lancer une guerre aussi.
Mais
et
oui.
En fait, voilà. Et je voulais vraiment, je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce qui se passe dans la région et ce qui est, à sortir un petit peu du cliché justement du fait que ce serait une guerre ethnique entre personnes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a effectivement énormément d'économique derrière, de contrôle des richesses, de contrôle des voies d'eau, de contrôle de plein de trucs. Mmh. Et donc voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une zone où il y a des gens qui souffrent énormément. C'est une zone où il y a des gens qui sont coincés. Il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, Mekelle, la capitale de l'Érythrée, ressemble à une sorte de ville-prison dont on ne peut...
De Tigré.
Ressemble à une ville-prison, c'est-à-dire d'où on ne peut pas vraiment sortir sans risquer de se faire arrêter, flinguer, malmener. Oui. Donc les gens restent sur place parce que voilà, sauf que ben elle n'est pas plus vraiment alimentée. Donc il y a des famines qui se déclenchent, oui, et des choses comme ça. L'aide alimentaire et l'aide humanitaire a du mal à arriver parce qu'elle est bloquée aux frontières, soit justement de l'Érythrée d'un côté, soit bloquée par les forces officielles éthiopiennes de l'autre. Donc en fait, même si le conflit semble perdre en intensité, il prend une tournure qui est assez terrible, qui est celle en fait de laisser des populations complètement démunis et mourir à petit feu, voilà. Et donc voilà, donc je sais pas si pour pas faire tout grand chose là tout de suite maintenant, je peux vous dire il faut aller voilà, mais au moins être au courant, soutenir les mouvements qui voilà, et puis surtout encore une fois comme à chaque fois qu'il y a un conflit, ben demandez à vos politiques et compagnie ce qu'ils en pensent, c'est-à-dire à un moment donné de dire au fait vous feriez quoi, parce que il y a des gens ils sont non alignés, vous savez. Ben, là, il faudrait peut-être s'aligner un peu et prendre une position, parce que voilà, c'est quoi ça sert.
Oui, oui, et puis passer de l'information, et puis déjà vous renseigner vous-même, parce que finalement, comme tu le dis, c'est très peu abordé, etc. Oui. Je veux dire, c'est pas plus abordé sur TF1 ou France Info que sur Rébellion. Donc,
c'est que
bien évidemment, en fait, c'est qu'il faut déjà soi-même, en fait, à un moment donné, élargir un peu nos regards aussi sur le monde.
Oui, oui, c'était mon idée, hein. Oui, oui. Et je ne m'exclus pas des gens qui ne s'en occupaient pas. Hein.
Oui, j'ai pas dit l'inverse. Ouais. Mais c'est, oui, effectivement, il faut déjà, avant d'aller interpeller vos politicards, souciez-vous déjà, vous, en fait, du monde et des positions que vous voudriez déjà adopter avant de demander ce que peut vouloir penser un bourgeois politicard en France.
Non, je pensais pour l'interpellation des politiques, c'était pour la vente d'armes. C'était à ça que je pensais.
Ah oui, mais ça.
Pardon, c'était pas à ce qu'ils pensaient du conflit.
Ah oui,
c'était c'était pour la vente d'armes.
Alors là, je vais être taquin, mais il n'y a pas que eux. Il faudra aussi interroger les syndicalistes qui aiment les travailleurs, quels qu'ils soient.
Oh oui, tout à fait.
Alors qu'effectivement, une usine d'armement sera à détruire au même titre que plein d'autres choses.
Oui, bien d'accord.
Mais aussi ça. Parce que le travail n'excuse pas tout, quoi. Eh bien, on passe à la musique.
Bah, la musique, ouais.
Allez, go.
I believe in love. So little girl, I want you to grow up and love yourself. Respect yourself and dream big and take the world by storm. Go out there and live.
If we choose love, if we choose love.
Hey, we've been here before. All the world's up in flames. That don't fix anything. Must be some other way. So much blood on the floor. Now we can't hide the stain. That won't fix anything. Must be some other way. Brothers, why we fighting each other? My sisters, why we let the men take our power? That's what they want. That's what they want. That's what they want. That's what they want. Our leaders conquer and they divide us. Our preachers teach the world of our colonizers. That's what they want. That's what they want. That's what they want. That's what they want. Some
anything. Must be some other way. Had a beautiful dream that I woke up and all of the bones in the world had been blown. An unusual twist to our fate, because none of them had any oil in the motor. It was almost the end of the world as we know it. The moment had never been closer. When we crawl out of hiding, we cry and decide it is time to start loving each other. Let's be stronger.
Vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur RadioCanu.org et on vient d'écouter Angélique Kidjo avec Choose Love, mais dans une version remixée par Cinematic. Voilà, Cinematic Remix. Et voilà, moi j'adore ce titre, c'est un hymne, elle a quelques années hein, déjà cette chanson, mais je trouve que c'est un hymne assez magnifique, quoi. Voilà, donc. Et c'est un hymne à la paix.
Mais c'était très joli.
Ouais.
Et je voulais juste rajouter vite fait, c'est parce qu'on parlait d'Éthiopie et pas que, mais je vous invite à aller sur bloodycoffee.org. Donc, ouais. Café sanguinolent, enfin, y a du sang dans mon café. Et en fait, alors ça parle de Colombie aussi, mais il y a quelques articles effectivement sur l'Éthiopie et qui reprend quelques éléments dont tu parlais tout à l'heure. Donc voilà, donc je vous invite à y aller, c'est bloodycoffee.org.
Ben, le Tigré est en partie au début des caféiers éthiopiens, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que.
Et, oui.
Et puis ça finance aussi l'armement.
Et... voilà.
Et bien donc Jean-Yves, toi tu voulais nous parler aussi d'un conflit dont on parle beaucoup, mais plutôt avec un angle de vue différent. C'est celui
c'est
qui
tout
se
à
passe
fait ça.
En Ukraine.
C'est ça, ce soir ouais, j'ai envie de vous filer quelques liens, quelques médias pour apporter d'autres regards, ce que tu disais, hein, d'autres voix sur ce qui se passe en Ukraine et la guerre que Poutine y mène hein. Et je parle pas là d'avoir des regards poutinophiles hein, sur cette guerre, ça je vous laisse regarder je ne citerai personne, mais voilà.
News.
Hein?
News.
Ouais, ou pas que, je pense aussi à certains ou certaines candidates présidentialisables. Donc voilà, hein, sur cette guerre, mais bien des regards, des analyses, des retours d'anarchistes, d'anti-autoritaires de la région et aussi, plus largement, de défenseurs des droits humains. Donc en effet, hein, on sait que les guerres sont, en plus des morts, en plus des viols, en plus des blessés, des périodes qui exacerbent les replis, les nationalismes, les simplismes du genre les gentils contre les méchants, et enfermant aussi de fait tout le monde dans deux camps, souvent pour ne pas dire toujours, qui se réduisent à les Russes, les Ukrainiens. Réduisant donc des millions de personnes aux positions des pouvoirs politiques qui gouvernent ces pays. Alors non, toutes et tous les Russes ne sont pas derrière Poutine et son impérialisme guerrier et meurtrier. Toutes et tous les Biélorusses ne sont pas des soutiens de Loukachenko sous fifre de Poutine. Pas plus que toutes et tous les Ukrainiens et Ukrainiennes ne se plient pas à tout ce que dit et fait Zelensky, ni ne gobent toute la propagande militariste qu'il y a aussi lieu en Ukraine. Oui, évidemment, toutes ces personnes représentent une minorité hein, dans tous ces pays évoqués. Reste qu'il me semble absolument important en fait, de voir, d'entendre, de lire leur voix. D'ailleurs, sans comparaison hâtive, les anarchistes anti-autoritaires ici sont aussi minoritaires. Bah, et on le sait. Hein.
J'allais dire, on parle sur une radio très minoritaire.
Oui, et les voix anarchistes, même sur ce genre de médias, sont très minoritaires aussi.
Donc voilà.
Donc, certains et certaines ont décidé de prendre les armes en Ukraine et je me garderai bien de les dénoncer ici trop facilement malgré mon antimilitarisme. Si la guerre est toujours de la merde, si elle fait toujours des millions de morts, de blessés, de viols, de violences, je peux aussi comprendre le choix de ces personnes parce que lorsque les bombes tombent, que les balles sifflent au-dessus de vous, il est déjà bien trop tard pour dire guerre à la guerre et que le réel vous rattrape plus vite que les slogans ne se disent.
Oui, justement, enfin, moi je trouve, merci de souligner ça. Moi j'ai été très mal à l'aise ces derniers temps, justement, par les prises de position je vais pas dire simpliste, c'est pas du tout mon propos, mais un peu à la mode, on montrait du doigt tous les gens qui étaient les anarchistes biélorusses, les anarchistes ukrainiens, qui ont pris la décision pour beaucoup de prendre les armes et d'aller combattre parce qu'à un moment donné, ils n'avaient pas le choix, comme tu le dis. Et en fait, j'ai trouvé qu'en fait cette façon de faire m'a rappelé des périodes de l'histoire un peu terribles où on a refusé en fait d'armer, d'aider des gens sous prétexte que c'était pas une guerre assez juste, que on savait pas trop, que tout ça. Et en fait, à un moment donné, là, faut pas se leurrer. Poutine, c'est aujourd'hui un fasciste en chef de clairement. C'est un timbré. C'est quelqu'un qui n'a pas de limite et qui, tant qu'il aura une armée qui voudra bien avancer par la peur, hein, parce que souvent c'est comme ça qu'il fait avancer son armée, il ira, quoi. Donc on est vraiment dans un contexte où, aller dire, je comprends pas qu'il l'ait fait, c'est un petit peu une position de facilité. Souvent qu'on prend avec un café à la main en se disant, bon, alors franchement, je comprends vraiment pas qu'ils aient fait ça. Sauf qu'en fait, voilà, eux, ils étaient face à une réalité. Et voilà.
Bah, surtout que c'est drôle parce que ça peut parfois aussi être les mêmes personnes qui disaient que la violence des gilets jaunes était légale, était juste.
Oui, légitime, ouais.
Légitime. Et donc là, en fait.
Ce qu'elle pouvait être d'ailleurs.
Ah, mais je remets même pas ça en question. Oui. Mais c'est juste, d'accord. Donc en fait, des pavés contre un gouvernement ultralibéral, etc., c'est juste. Par contre, se défendre face à des bombes et des balles et des viols et des violences, c'est pas juste. Bon, c'est très drôle.
C'est pour ça que je trouvais
drôle,
bien que tu l'aies souligné. Ouais.
Et alors, pour autant, hein, attention, justement, je peux aussi, si je peux comprendre le choix de saisir les armes, on doit aussi être absolument vigilant et vigilant de ne pas ériger non plus cela en héroïsme et d'être aussi également vigilant et vigilante de ne pas faire abstraction des positions nationalistes, patriotards que cela peut réveiller chez certains de ces militants anards anti-autoritaires. Je veux dire, faut pas non plus, en fait, faut pas tomber dans un simplisme binaire.
Faut rien idéaliser.
C'est exactement ça, en fait. Donc, parce que ça serait trop facile, facilement tomber dans un militarisme exacerbé, hein, avec tout ce que ça comprend, hein, nationalisme, machin. Et quant à l'héroïsme, ben je suis même pas certain en fait que celles et ceux anards et anti-autoritaires, hein, je parle bien de eux, qui ont fait ce choix, se vivent comme des héros, quoi. Enfin, là aussi, en fait.
Il suffit de les lire pour voir que non.
Hein. Ben non, en fait, c'est, quoi.
C'est plutôt l'inverse.
Justement.
Ils sont même un peu dégoûtés de devoir faire ça, quoi.
C'est ça. Bref, je voulais détailler donc un peu toutes ces positions quand même, parce qu'elles apparaissent aussi dans les retours qu'on peut lire, dans les appels à solidarité qui nous viennent de ce coin du monde. Et justement, l'idée, c'est que je vais enfin, maintenant, à ces liens et dont je vous parlais au début, hein, de tous ces sites et internet, etc., où on peut retrouver des voix un peu différentes. Donc je propose de commencer par des assos et collectifs non anarchistes. C'est pas grave, ça arrive. Hein.
Personne n'est parfait.
On taquine. Donc je commencerai par Mémorial International, qui est une organisation non gouvernementale, non commerciale de droit russe, enregistrée sous le nom de Association Internationale Historique et Éducative, Caritative et de Défense des Droits de l'Homme. Alors Mémorial, hein, dont l'objet est l'étude des répressions politiques en URSS, dans la Russie actuelle, mais également dans les pays de l'ex-URSS et de l'ancien bloc de l'Est, en fait. Et elle promeut la réhabilitation morale et juridique des personnes soumises aux répressions politiques. Donc c'est vraiment, il y a un pan vraiment historique très important. Hein.
C'était surtout, c'est surtout cet assaut qui a énormément travaillé sur les crimes du stalinisme, qui avait été planqué par la police politique pendant des années.
C'est tout à fait ça. Donc vous trouverez des infos sur le site. Alors, parce que cette association a plusieurs branches, dont une française. Donc, c'est memorial-france.org. Alors, il faut savoir qu'en Russie, hein, la Cour suprême le 28 décembre 2021 a décidé de liquider l'organisation à la demande du parquet général. Et le 28 février, 4 jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine, la chambre d'appel de la Cour suprême a examiné la plainte de Mémorial International et a confirmé la dissolution de la branche russe. D'ailleurs, je crois, alors je veux pas dire de conneries, mais il y a une de ces assos dont je vous parle qui a eu une descente il y a même pas 3 semaines dans leur
locaux.
C'est Mémorial, ouais. Qui a eu une descente et il y a aussi la suivante dont je vais vous parler qui a aussi eu une descente. Ouais. Et parce que justement, elle parlait de la guerre. Vous savez bien qu'en Russie, on parle pas de guerre, on parle d'une opération spéciale, n'est-ce pas, pour aller désintensifier des choses. avec un fasciste au pouvoir en Russie et qui ne date pas d'hier. Hein. Je voudrais juste, vite fait, je fais un petit écart, mais on est quelques-uns parmi les anards et anti-autoritaires qui dénonçons depuis longtemps Poutine, son pouvoir, etc. Parce que ça fait très longtemps qu'il enferme les opposants, les anti-autoritaires, les anarchistes. Je pense à Kolchenko, mais il y en a bien d'autres. Et que voilà, en fait, hein, c'est... On découvre aujourd'hui ce que d'autres avaient déjà...
depuis des années.
C'est exactement ça. Donc je continue, pardon, avec OVD-Info, alors, qui est une organisation là aussi non gouvernementale, hein, indépendante, russe, des droits humains. Alors cette organisation, elle a pour but de lutter contre la persécution politique et les violences policières à l'encontre des manifestants civils. Le 29 septembre 2021, le ministère de la Justice de la chère et tendre Fédération de Russie désigne OVD Info comme un agent de l'étranger, l'exposant donc à des sanctions, hein, certaines critiques. Voilà un moyen d'étouffer l'opposition. On ne va pas dire l'inverse parce qu'on sait très bien que c'est comme ça que ça se passe. Le 25 décembre 2021, le Service fédéral de supervision des communications, des technologies et de l'information et des médias de masse russe bloque le site internet de l'association en vertu d'une décision de justice. Un représentant de l'ONG déclare en fait qu'ils n'ont jamais reçu de notification de la part du gouvernement et que la raison de ce blocage leur est encore aujourd'hui totalement inconnu.
Ouais, mais ça, c'est parce que le courrier s'est perdu.
Mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Non, mais en plus, ça, c'est encore un coup des Ukrainiens.
Non, mais c'est une méthode qui, en Russie, est extrêmement fréquente. Eh oui. En fait, on tape, on ferme, et après, on vient justifier a posteriori. Ça arrive à plein d'opposants, et voilà.
Donc. Reste que vous pouvez quand même encore aller sur leur site, hein, parce qu'ils arrivent à s'arranger pour continuer d'exister.
On peut remercier certaines VPN et certaines boîtes de VPN qui offrent des bandes passantes.
C'est ça. Voilà. Donc, où sont répertoriées, hein, toutes les arrestations liées aux dernières manifestations depuis le déclenchement de la guerre. On n'est pas sans savoir que justement les Russes, ça n'existe pas, et qu'il y a bien des Russes qui sont sortis manifester contre cette guerre en Ukraine, et celles-ci ont été arrêtées, hein. Donc moi, je vous invite vraiment à aller sur ovdinfo.org. Alors c'est en russe, mais grâce à la joie des outils numériques aujourd'hui, vous pouvez traduire très facilement leurs articles, et on en comprend très largement le cœur, le sens, etc. J'en profite vite fait avant d'arrêter sur OVD Info que l'association aujourd'hui compte pas moins de 15 438 arrestations en Russie depuis le déclenchement de la guerre. Ne l'oublions pas. Donc, il y a au moins 15 438 personnes qui ne sont pas derrière Poutine, et on sait bien que la violence et la répression fait taire beaucoup de gens,
bah,
et que
logique, hein.
Sans dire que 90% de la population est contre Poutine, mais je n'irai pas à dire que tous les Russes sont derrière Poutine. Donc, ces petites nuances sont absolument primordiales, sinon on va commencer à faire des grands ensembles et c'est toujours mauvais. J'en viens maintenant, pardon, au site d'articles sur la situation. Alors là aussi, je vous envoie vers un site de Russie, et plus précisément l'Action Autonome, qui est un site d'anarchistes russes.
Qui vient d'être interdit d'ailleurs, je crois.
Alors c'est ce que je me suis mis. C'est bien que normalement interdit, il et elle continuent de diffuser de l'info, de l'analyse et de la critique. Profitons-en, soyons leur relais. Donc voilà, c'est un groupe quand même vite fait, c'est un groupe médiatique libertaire issu du mouvement d'Action Autonome. Donc c'est-à-dire qu'ils sont liés à aucune organisation, oui. Mais qui partagent les idées, en tout cas anti-autoritaires et anarchistes. Donc notre objectif, c'est ce qu'ils disent, est de promouvoir l'alternative libertaire et anarchiste à travers la création de nouvelles et de ressources analytiques de haute qualité. Voilà, et à jour. Donc leur site, hein, c'est AVT. Alors, ouais. C'est avtonom, avtonom.org. Et là aussi, vous pouvez largement, facilement traduire leurs articles. Il peut y avoir des tournures qui foirent, mais on comprend très bien le cœur des articles. Et je précise que là, vous n'avez peut-être pas le temps de prendre toutes les notes.
Oui, tu mettras tout sur le blog.
Tout sera sur le site de la causerie, évidemment, pour que justement vous puissiez aussi vous les approprier et ne pas les oublier. Enfin, vous arrêtez pas à ce soir et à demain. Continuez de les consulter à longueur de temps, parce que même si la guerre devait s'arrêter en Ukraine, pardon, la situation des anarchistes anti-autoritaires en Russie ne sera pas... Ouais, ne va pas s'améliorer par magie.
La situation de plein de gens, en fait. Pas
oui, évidemment. Mais effectivement, ils sont plus autour du mouvement anarch. Aussi, en site, justement, d'articles, etc., il y a le site Crime Ethink. Alors, ouais, là aussi, je vais pas vous les plaire, mais alors, Crime et Think, en fait, c'est un réseau international d'aspirants révolutionnaires hein, qui s'étend du Kansas à Kuala Lumpur. Hein. Là aussi, à travers le monde. Donc, depuis plus de 20 ans, en fait, ils et elles ont publié des actualités, des analyses, des livres, des revues, des affiches, des vidéos, des podcasts et un large éventail hein, d'autres ressources, toutes évidemment libre de droit, manquerait plus que les anarches fassent du blé là-dessus, et produite et distribuée par des bénévoles sans dépendre de financement externe ou des tendances du marché. Je reprends leurs mots. Hein. Donc voilà, et en fait, là aussi, sur ce site-là, il y a. Alors là, vous pouvez traduire évidemment tous les articles, mais il y a une petite section d'articles en français. Mmh. Donc, vous y gagnerez un petit peu en travail de traduction. Donc voilà, et vraiment, il y a vraiment plein d'articles. Donc c'est là aussi, ça permet aussi de constater que bah, même le mouvement anarchiste n'est pas monolithique, ouais. Qu'il y a des divergences entre différents groupes anarchistes, etc. Par exemple, sur la prise d'armes ou pas, etc. Donc c'est aussi intéressant justement de ne pas simplifier les anarchistes. Non, il y a du débat au cœur du mouvement anarchiste et c'est plutôt bon signe. C'est qu'on appelle, on n'est pas tous derrière un chef, voilà quoi. Donc voilà.
Élisez moi, non.
Nous sommes. Alors ça marche ça pas non plus, ça. Ça ne marche pas. Nous sommes la République. Alors, je propose de terminer par trois orgas et des initiatives anarchistes d'aide et de soutien. Il est donc évidemment question là d'argent, mais pas que non plus. Donc, je vais commencer par l'initiative de solidarité Olga Taratuta. Alors, avant que j'explique un peu plus ce qu'est cette initiative de solidarité, j'ai parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on découvre des personnages. C'est
des personnes.
Des personnes. Olga Taratuta était en fait une militante révolutionnaire anarchiste juive ukrainienne qui est née en 1876. Elle a été emprisonnée plus de 10 ans hein, dans les prisons tsaristes pour activités révolutionnaires à Odessa entre autres. Elle a été libérée en 1917 à la faveur de la révolution. En 1920, elle a fondé la Croix Noire anarchiste,
la Black Cross,
l'anarchiste Black Cross, qui je vous en parlerai plus tard d'ailleurs, et en fait qui a été faite pour venir en aide aux détenus politiques du mouvement révolutionnaire, qu'ils soient dans des prisons, dans des prisons des Russes blancs, des nationalistes ukrainiens ou des bolcheviks, et elle est de nouveau emprisonnée hein, pour ses activités de solidarité par le pouvoir. Aucun bolchevique qui finira par la fusiller en 1938. Olga Taratuta est une figure universelle de la lutte sans compromis contre la dictature, quelle qu'elle soit, même si elle est rouge, et pour la liberté. Donc, j'en reviens quand même à cette initiative, parce que c'est quand même le cœur du truc, mais je trouvais que c'était intéressant de parler, et en plus,
de rappeler qui elle était.
Alors déjà, les femmes dans le mouvement anarchiste, on a peu de mémoire quand même, et que là, je trouvais que voilà, j'en profitais. Bref, donc cette initiative, hein, c'est une initiative de solidarité avec les réfugiés, les déserteurs, les pacifistes, en Ukraine comme en Russie et Bélarus, parce que, je les cite, le nationalisme, c'est la guerre. Il et elle s'opposent à toute forme de nationalisme et ne prennent parti pour aucun gouvernement, pas plus ici que là-bas. La solidarité va donc aux populations et non aux institutions. Est également proposée hein, à tous ceux et à toutes celles qui, comme eux, aspirent à la liberté et ont la guerre en horreur, de se joindre à l'initiative de solidarité pour soutenir matériellement et financièrement, celles et ceux qui luttent contre la guerre, qu'ils soient ukrainiens, biélorusses, ou russes. Ils cherchent particulièrement à soutenir les déserteurs et les pacifistes russes et biélorusses, qui selon eux, et je les rejoins, tiennent entre leurs mains une partie de la solution contre la guerre. Oui, parce que si les militaires désertent, il n'y aura plus grand monde pour tenir les armes, et je ne pense pas que Poutine ira sur le front avec ses petits bras, même si cela joue à Musclor. Donc, cette initiative hein, participe aussi à la solidarité avec les réfugiés, dont il est appelé à ce qu'ils soient accueillis le plus largement possible en Europe. Et évidemment, cette initiative est indépendante de tout parti politique et elle est strictement laïque. Mmh. Donc, son site internet, c'est nowar, N-O-W-A-R, solidarity.online, et là vous allez trouver tout ça. Et enfin, j'active. Le dernier, c'est.
Non, moi je te pressais pas.
Non, mais c'est moi qui me presse. Le dernier, c'est Operation Solidarity. ou Opération Solidarité.
Vous aurez compris qu'à la causerie, personne ne cause anglais correctement, sauf Clara qui ne parle pas.
Ouais, attends, c'est justement parce qu'elle parle pas qu'elle sera ça. Yes, I speak very well English, ouais, t'as raison. Ouais. Pardon, donc on est toujours sur Opération Solidarité. Donc c'est un réseau de volontaires anarchistes organisés pendant la guerre pour aider conjointement toutes les forces progressistes de la société à contrer l'agression impérialiste contre l'Ukraine. Avec les fonds collectés, sont achetés et livrés des articles humanitaires, de l'équipement militaire et aussi des fournitures médicales les plus nécessaires en Ukraine. Alors, il y a différents moyens de participer à cette solidarité financière. Enfin, il y a différents trucs, soit c'est des virements, soit c'est PayPal, etc., etc. Mais je souhaite quand même préciser que via PayPal, il y a deux comptes distincts. Justement pour celles et ceux qui ne voudraient pas financer finalement une réponse militaire à la guerre. Donc vous pouvez...
Une réponse armée.
À la guerre qu'ils prennent dans la gueule. Donc il y a un compte qui est strictement réservé à l'aide aux réfugiés et aux victimes de guerre. Donc je trouve ça hyper intéressant aussi de dire, vous pouvez aussi décider de soutenir une voie de solidarité, quoi. Donc vous trouverez toutes les infos sur le site operation-solidarity.org. Et je sais aussi que le site du Monde Libertaire, qui est le journal de la Fédération Anarchiste, relaie quasi quotidiennement cette campagne de solidarité. Et donc c'est aussi un moyen de pouvoir trouver justement les liens, mais aussi les comptes rendus, parce que cet asso fait des, enfin ce collectif fait des comptes rendus quasi quotidiens sur qu'est-ce qui se passe, comment que c'est pour eux, etc.
Ils maintiennent l'information à haut niveau.
C'est ça. Donc je rappelle que tous ces sites internet dont je vous ai parlé là tout de suite, on les mettra sur le site de la causerie. Comme ça, voilà, si vous n'avez pas eu le temps, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez largement les récupérer sur le site de la causerie.
Mais c'est bien d'avoir l'idée de dire qu'on peut s'informer aussi autrement que dans les médias mainstream, comme on dit. Même si ça ne veut pas dire grand-chose.
Oui, non,
grand
ouais.
Public. Même si, et je le dis, moi je salue quand même le travail de certains journalistes qui sont sur le terrain et qui font un excellent travail. Tout n'est pas acheté, c'est pas parce que c'est
Non,
pas,
non. Voilà.
Non, mais je sais que ce n'était pas ton
clairement.
Idée. Je dis juste ça, je dis à un moment donné, ça aide aussi à se construire un panel de points de vue. Oui. Et c'est important, parce que je pense que pour bien réfléchir, il faut réfléchir large. Donc oui. Voilà.
Là, vraiment, ce qui moi m'intéressait, c'est effectivement d'essayer de trouver des liens et des sites où ce sont directement les gens sur place qui essayent de s'exprimer.
Oui, bien sûr.
Et clairement, je vais pas du tout dire que d'autres médias font de la merde. C'est juste que là, souvent, quand même, on a des médias ou qui ont des points de vue assumés politiques. Donc, et qui vont justement aller aussi dans le débat. C'est ça qui est intéressant. Alors qu'on va des fois être dans du journalisme grand public qui va être plus dans du constat.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a eu ça, il y a eu ça. C'est pas la même approche. Mais c'est pas forcément en opposition. Moi, je pense que diversifier vos sources, et je pense que ça permet d'entretenir l'esprit critique. Et voilà, parce que nous, on n'est pas du tout dans une critique basique assez stupide des médias mainstream.
Non, vous entendrez
que les médias alternos sont tout à fait bons, comme s'il n'y avait pas d'objectivité, de subjectivité dans les médias alternatifs.
Et j'ajouterais juste un truc, mais ça, c'est parce que je viens d'y penser là, maintenant, tout de suite, c'est que, oubliez pas qu'en fait, que ce soit en Russie ou en Ukraine, ou d'ailleurs dans plein d'endroits du monde, il y a de plus en plus d'activistes, de gens, ou même de gens lambda, qui tiennent des chaînes Twitch, Instagram, TikTok, tout ça et compagnie. Ouais. Et en fait, ils donnent eux aussi de l'information. Alors, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, faire attention à la propagande, évidemment. Mais parfois, c'est aussi très positif de voir parfois des gens s'exprimer. Moi, je sais que j'ai suivi un live Twitch d'une demi-heure d'une personne qui était sous les bombardements à Kiev et qui n'avait pas l'intention de vous dire ce que vous deviez penser, mais qui voulait juste vous faire ressentir ce qu'il vivait. Et c'était pas du tout, lui c'était ce que je vis depuis 50 jours maintenant quasiment, son but c'était juste de nous faire comprendre sa vie en fait, et c'est aussi une façon de s'informer. Voilà.
Mais tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai que je suis un peu passé au-dessus, mais je sais que Action Autonome par exemple, le groupe anarchiste autonome, ils ont, alors bien qu'ils ont été censurés par l'État russe etc., pour l'instant, ils ont encore des canaux, je crois, sur YouTube.
Oui, aussi.
Donc n'hésitez pas, mais déjà allez sur les sites internet. Et d'ailleurs, souvent sur les sites internet, vous trouverez les autres réseaux sur lesquels vous pouvez les retrouver. On ne fait pas plus longtemps, tu n'as plus rien à rajouter ?
Si, tu vas te lever et danser maintenant.
Oui, c'est exactement ça. Vous aussi, poussez vos canapés parce que ça fait danser. Ouais, ben bah, dis voilà. Donc, t'es toujours à l'écoute de Radio Canu, hein, c'est toujours la causerie, et je suis remonté à fond là.
Il a dansé. Mais en fait, j'espère qu'un jour on pourra se filmer pour que vous voyez Jean-Yves quand il met certains titres. Voilà.
Ah, eh ben je suis refait là.
Bon bah du coup je vais faire une brève.
Je vais quand même présenter le titre. Alors on vient de s'écouter. Alors attends, faut que je regarde sur la bonne page. C'est donc.
Il en peut plus. Mais comment on va finir l'émission ?
Non mais on va y arriver hein, clairement. Hein. Donc c'était pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Idols, hein, ouais. Avec le titre I'm Scum. Donc voilà. Je vous invite évidemment à écouter ça à fond et à bouger votre body.
Et donc, dans quelques temps, dans la causerie, vous aurez tous les Idols, tout Altarba et bientôt tout Lissom. Et on en...
alors, amis auditeurs, auditrices, c'est pas pour vous ce message, c'est juste pour Fab et Clara. Je vous emmerde.
J'ai rien dit, moi.
Alors, juste, je vais faire une brève, là, oui, maintenant, tout de suite. Donc, ça se passe mardi 26 avril à 19h à l'Amicale du Futur. Et donc, l'idée, c'est de présenter la lutte contre la RN88 en Haute-Loire. Alors, ça a l'air comme ça, de gens disent, oui, mais pourquoi vous en parlez à Lyon? Parce que c'est à destination des Lyonnais qui bougent. Donc voilà, donc forcément, oui.
Mais c'est cette déviation qu'ils voulaient foutre en place ?
Ah ben oui, oui.
Les choses qu'ils avaient abandonnées ?
Ah ben non. En fait, ils l'ont juste retracé. Donc justement, si tu veux en savoir plus, tu peux rencontrer le collectif La Lutte des Sucs à l'Amicale du Futur, mardi 26 avril à 19h. Et ensuite, il y a une cantine à partir de 20h30. Voilà, l'idée, c'est un petit peu de discuter avec eux de leur perspective de lutte et de leur point de vue par rapport à cette déviation qui, une nouvelle fois, va aller bouffer des terres agricoles, défoncer un petit bout de parc national, le tout pour que l'on puisse rouler toujours plus vite avec sa petite vroom-vroom. Voilà.
C'est ça, mais ça c'est pour la biodiversité, te soucie
c'est
pas.
Ça.
Alors l'autre rendez-vous, hein, c'est dimanche prochain, avant la causerie, il y aura d'autres choses, ouais bon... Voilà quoi. Donc dimanche prochain, dimanche 1er mai, donc c'est dès 10h30 hein, à la plage Jean Massé, pardon, dans le 7e arrondissement. Évidemment, c'est la manif pour la journée de lutte des travailleurs et des travailleuses. Et puis vers 12h30, au départ de Bellecour jusqu'à place Colbert pour le repas de quartier organisé par Radio Canu. Un repas de quartier, amenez votre bouffe. Hein. Il y aura peut-être le punch de Radio Canu, mais il n'y aura pas plus parce que je vais en profiter à titre personnel, c'est-à-dire que nous avions l'habitude de nous retrouver sur la place Satonnet. Vous savez, c'est juste la place à côté de la radio parce que c'était un repas de quartier, en bas des pentes, etc. Mais une formidable mairie de gauche a décidé d'organiser sur cette place un superbe marché de je ne sais plus quoi.
Éthique et équitable.
Donc un 1er mai, un jour férié, à faire du business. Ça doit être ça, une gauche de gouvernement, de pouvoir, et qu'il soit local ou national. C'est faire marcher le capitalisme en faisant...
Même le 1er mai.
Même le 1er mai, donc, hein, donc pour toutes celles et ceux qui peuvent des fois nous parler avec nous, venez pas nous vendre votre Perrin Gilbert ou je ne sais pas quel autre zouave politicarde, ce sont tous les mêmes. Voilà, et juste je voulais...
Il y en a marre, tous les mêmes, il y en a marre.
Il y en a marre, ouais, pardon. Et je voulais quand même vite fait, juste parce que je pense que c'est important... C'est rappeler qu'est-ce que c'est le 1er mai, en fait. Parce que entre ceux qui veulent nous dire que c'est la fête du muguet, entre les politicards qui nous disent que c'est la fête du travail, super, fêtons l'exploitation, ouais, on veut tous être exploités. Ben non, en fait, le 1er mai 1886, les travailleurs et travailleuses de Chicago manifestaient, soutenus par des syndicats américains, le journal anarchiste The Alarm. C'est par une grève générale, impulsée par les anarchistes entre autres, qu'elles et ils s'expriment. Déjà, les enjeux étaient de se réapproprier leur vie, de lutter pour les droits sociaux, la journée de travail de 8 heures, et déjà, ces manifestations avaient suscité l'indignation et la réaction violente du pouvoir et de sa presse. Déjà, ils répondaient aux travailleurs et aux travailleuses, aux exploités et aux mobilisés, qu'il n'y avait pas d'argent magique ou de solution miracle à leurs problèmes. Il fallait faire pour l'économie et donc travailler toujours plus et se taire. Pire, un attentat contre les flics, aujourd'hui reconnu comme piloté par les milices patronales, eut lieu le 3 mai 1886, alors que la grève se poursuivait. Cela justifia l'arrestation et la condamnation à mort de 8 syndicalistes anarchistes. 5 d'entre eux sont morts, 4 tués par l'État, la peine de mort, hein, et 1 se suicidait justement pour ne pas subir l'ultime outrage de la violence étatique.
Et comme il l'a dit lui-même dans la lettre, ne pas mourir devant des bourgeois extatiques.
C'est ça. Et les trois autres furent condamnés à la perpétuité. Et en fait, c'est depuis que nous avons fait de ce jour un jour de lutte. Donc c'est ni la journée du muguet, ni la journée à la gloire du travail, à la coco, etc. Non, c'est pour se rappeler que des gens ont été tués parce qu'ils voulaient améliorer leur vie, leur sort et leurs conditions, en fait. Donc vous ne laissez pas emballer par le folklore, etc. Non, en fait, c'est un jour vraiment de lutte et pour se rappeler des luttes passées. Et c'est aussi justement en faisant le lien avec toutes ces luttes passées et se rappeler aussi qu'aux États-Unis, ça a été un fort lieu, un haut lieu de lutte syndicale, militante et également anarchiste, justement, qu'on oublie trop souvent et que tout le monde veut énoncer.
Flingué par la garde de. Comment on appelle ça aux États-Unis ?
Fédérale.
La garde nationale, oui, la garde. Voilà. Donc ça a été vraiment réprimé dans le sang.
Voilà.
Il n'y a pas d'autre mot.
C'est ça. Donc voilà, rendez-vous dimanche prochain, 10h30 à Jean Massé ou 12h30 à Bellecour pour aller au repas de quartier.
Voilà, et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de TCL le 1er mai à Lyon, donc on peut s'organiser pour covoiturer, covélorussionner.
Oui, il y a aussi une vélorussion qui part de Vaugirard-la-Soie jusqu'à Jean Massé. Donc n'hésitez pas. Voilà, on essaie de diversifier les manières de se rejoindre pour que
et de s'entraider.
Et de s'entraider pour que tout le monde ait sa place.
Ouais, et là on va se quitter et moi j'ai envie de dire. Oui. Putain, le crabe a eu Arnaud, et ça fait chier.
C'est ça.
Voilà, donc le chanteur Arnaud est décédé hier de son cancer qu'il a combattu pendant quasiment 2 ans. Ça fait chier parce que c'était Arnaud, quoi. Et puis qu'Arnaud, on l'aime, tout simplement. Et juste te dire, on va passer à un titre. C'est issu de son dernier concert qu'il a donné en février, qu'il a fait quasiment assis tout le long parce qu'il ne pouvait presque plus bouger. Mais il voulait
rester. En tout cas, il était déjà bien épuisé par la maladie.
Mais comme il le disait lui-même, c'est quand même pas la mort qui va m'empêcher de chanter. C'était très poétique et très beau. Voilà. Et là, c'est un duo qu'il a fait avec son ami Stromae. Et donc, ils ont repris ensemble.
Stromae. Français, je te jure.
Ouais, moi, je suis un peu trop français. Et donc, ils ont repris ensemble. Putain. C'est vachement bien.
C'est ça.
Donc voilà. Et là, c'est la version donc, qui est pas un son terrible, mais qui quand même fait du bien.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Donc profitez, kiffez. Et puis, on vous donne rendez-vous, nous, dimanche prochain, 22h pour la causerie. Et peut-être avant, dans les manifs, si on s'y croise.
Exactement.
Des bisous, bon
Des
courage.
Des bisous, à
ciao.
Dimanche.
Ciao, ciao. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes
merci.